soir, les résultats préliminaires des enquêtes de la police judiciaire des parquets sur la paie des agents et fonctionnaires de l'État renseignent qu'il y a plus de 133 000 agents fictifs et environ 43 000 doublons qui bénéficient indûment de la paie des fonctionnaires et agents de l'État officiellement reconnus. Ces enquêteurs révèlent que depuis le mois d'août 2011 jusqu'à ce jour, près de 250 millions de dollars destinés à la paie des fonctionnaires et agents de l'État ont été partagés entre 50 personnes. Ils estiment que les présumés détournements des salaires ont été opérés par manque d'un système de bancarisation efficace. De son côté, le président du comité de suivi de la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État en RDC reconnaît que malgré les efforts d'assainissement qui ont permis d'élaguer plus de 25 000 fictifs, l'administration publique en compte encore. Quelle lecture faire de cette situation? Que faire pour rendre la bancarisation efficace et transparente? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 30 septembre 2020. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Jean-Louis Kayembe, président du comité de suivi de la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État en RDC. Monsieur Jean-Louis Kayembe, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Florimond Mouteba, professeur d'université et président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP-ONSIG. Professeur Florimond Mouteba, bonsoir.
Bonsoir.
Et Fabrice Ngabo, il est chercheur et consultant en fiscalité et finance. Monsieur Ngabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Wass Kankonde depuis Kinshasa. Ce problème des fictifs interminables dans les secteurs publics relève tout simplement de la mauvaise conception des politiques publiques de notre pays. Souvent, il n'existe pas des termes, des références claires dans la mise en œuvre des politiques publiques dans la mesure où un projet sérieux doit avoir des indicateurs clairs et précis. Or, dans la politique de bancarisation, on ne sait pas quel a été le nombre des fonctionnaires au départ, combien sont bancarisés pour dégager les écarts. En plus, il n'y a jamais eu d'évaluation finale du processus de bancarisation pour savoir si les objectifs ont été atteints. Merci de nous suivre à Kisangani, dans la province de la Tchopo, sous la 94.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Dossier bancarisation en RDC, les résultats préliminaires des enquêtes de la police judiciaire des parquets sous la paie des agents et fonctionnaires de l'État renseignent qu'il y a plus de 133 000 agents fictifs et environ 43 000 doublons qui bénéficient indûment de la paie des fonctionnaires et agents de l'État officiellement reconnus. Des sources proches de la police judiciaire qui se sont confiées à Radio Capi font des révélations sur les présumés détournements des salaires opérés par manque d'un système de bancarisation efficace depuis le mois d'août 2011. Jusqu'à ce jour, les détails avec vous, Jeff Ngoy.
Selon nos sources, les agents de l'administration publique du président de la République jusqu'au dernier huissier comptent environ 1 138 000 fonctionnaires. La même source affirme que ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Les vrais effectifs ne sont jamais maîtrisés malgré les recensements réguliers. 133 000 agents fictifs et sur plus d'un million d'agents, cela fait plus de 13% d'agents fictifs, ce qui cause un manque à gagner considérable au trésor public. L'histoire de la bancarisation remonte de l'instruction demandée par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, car d'après nos sources, le rapport du comité de suivi de cette bancarisation n'avait jamais été finalisé et qu'il y aurait des éléments nouveaux. Peu avant, la première demande d'instruction avait été formulée sur injonction de l'ancien ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, puis le dossier fut classé sans suite. Depuis le mois d'août 2011, 7 000 milliards francs congolais et 50 millions chaque mois ont été détournés des salaires des fonctionnaires. Les enquêteurs allèguent que l'argent détourné a été partagé entre 50 personnes, agents et officiels impliqués dans la chaîne de paiement avec la complicité de certains responsables de la Banque centrale et des banques commerciales. Nos sources présument encore que dans le cadre du suivi de la bancarisation, le comité qui en assure le contrôle et l'encadrement afin d'élaguer les doublons et les fictifs n'est pas non plus sans reproche. C'est responsable de falquérer l'équivalent de 3,6 dollars sous la paie de chaque fonctionnaire. À noter que les fonctionnaires de l'État se disent satisfaits de ces résultats préliminaires. Selon Jean Bosco Pouna du Sénécat, ils ont toujours réclamé un audit sur cette bancarisation et que ces enquêtes tombent ainsi à point nommé. Ils souhaitent que cela aboutisse à des sanctions.
Merci Jeff Ngoy pour ce reportage. Jean-Louis Kayembe, je rappelle que vous êtes président du comité de suivi de la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État en RDC. Comment vous analysez les résultats préliminaires des enquêtes de la police judiciaire des parquets qui parlent des détournements des salaires des agents et fonctionnaires de l'État?
Oui, bonjour madame, bonsoir. Merci de me faire participer à cette émission. Disons, d'ores déjà, je veux vous dire que je ne veux pas me prononcer sur l'enquête. L'enquête est en cours. Et donc, je veux tout simplement parler de la réforme, étant donné que je suis responsable de la structure qui pilote la réforme. Alors, pour la petite histoire, pour fixer bien le décor, planter les décors, c'est que la bancarisation a commencé en août 2011. Alors, c'est la bancarisation des agents, de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Pour rappel, cette paye-là, avant la bancarisation, elle était faite, manuellement, c'est-à-dire au travers de comptables publics. Donc l'argent était remis au comptable qui procédait au paiement ou à des aux différentes administrations qui procédaient à leur paiement. Alors, la bancarisation, c'est en fait le fait que cette paye qui était manuelle, qui passait par les comptables, change de mode de paiement. Maintenant, avec au lieu de faire passer par les comptables, et dans le cadre de la bancarisation, le gouvernement a confié cette paye aux banques, parce que le gouvernement a conclu un protocole d'accord avec l'Association congolaise des banques. Donc, la paye qui était manuelle, faite par deux personnes, maintenant, on a voulu que cette paye puisse se faire au travers des banques. Alors, l'objectif, c'était quoi derrière cette réforme? Je vous signale en passant que c'est une réforme audacieuse qui a été menée par des Congolais. Il n'y a pas eu d'étrangers. Alors,
c'était d'abord, quoi l'objectif?
L'objectif, c'était quoi? Au travers de la bancarisation, qu'on arrive à maîtriser les effectifs. Donc, s'il y a un effectif, à travers la paye par voie de banque, qu'on puisse détecter ces effectifs et assainir le fichier paye, de sorte qu'on puisse obtenir certaines économies ou réduire la masse salariale. Alors, qu'est-ce qui a été fait? En bref, d'abord, je rappelle que la paye, c'est une dépense de l'État, et comme toute dépense de l'État, la paye a quatre étapes. La première étape, c'est l'engagement. L'engagement, donc, c'est en fait au niveau, c'est fait comment au niveau de la paye? C'est en fait le ministère de la fonction publique, dans ses attributions, qui est le donneur d'ordre de la paye. Parce que c'est le ministère de la fonction publique qui gère le personnel des carrières du service public. Donc c'est là que, au niveau des carrières généraux, secrétariat généraux de la santé, agriculture et centre, c'est à ce niveau qu'on gère le personnel et qu'on confectionne les listes. Ainsi donc, dès que les listes sont bien confectionnées, la paye est engagée, donc ces services, dès qu'ils ont terminé le travail, la dépense de rémunération, transmettent à la liquidation. La liquidation fait son travail. On sait que la liquidation, ce sont des vérifications d'usage. Également, on voit que si le montant à payer est conforme au budget. Ça passe par l'ordonnancement. L'ordonnancement, c'est au niveau du ministère des Finances. On prépare les titres de paiement et qui sont validés par les cabinets des ministres lui-même. Et ça va à la Banque centrale pour les paiements. Et ça aboutit, ça se termine par les banques. Mais là, dans les cas de la bancarisation, qu'est-ce que nous avons gagné? Dans l'objectif de maîtriser l'effectif. Qu'est-ce qui a été fait? Lorsque nous avons commencé à bancariser, la paye est passée par toutes ces étapes. Maintenant, au niveau des banques, parce qu'on a enlevé la paye au niveau des comptables, on a confié aux banques, quel est le premier résultat auquel on est abouti? C'est le fait que, lorsqu'on a confié cette paye aux banques, les banques devraient d'abord, au préalable, identifier les bénéficiaires. L'identification des bénéficiaires avant les paiements. Bien sûr, l'identification des bénéficiaires, c'est en vue de l'ouverture des comptes, parce que la paye par voie bancaire passe par l'identification, l'ouverture des comptes et l'opération de crédit portée au compte. Ainsi donc, lorsqu'on a fait l'identification, le premier résultat, c'est qu'on a constaté qu'il y avait des gens qui étaient bel et bien pour lesquels la paye était bel et bien engagée, c'est-à-dire des gens qui se retrouvaient sur des listings, que les gestionnaires en amont au niveau de l'engagement de la paye, que les gestionnaires ont bel et bien mis dans les listings. Ces gens, lorsqu'on est arrivé au niveau des banques, les banques attendaient que ces personnes puissent se présenter pour qu'elles puissent toucher leur argent. Premier constat, on constate qu'il y a un grand nombre de gens qui n'arrivent pas. Voilà comment on a commencé à détecter le fictif. Voilà l'origine de l'Erelica Pay.
Oui, mais on a accordé
Oui, madame.
Depuis la mise en place de cette réforme, août 2011, 9 ans après, nous sommes en 2020, est-ce qu'on peut dire que cette réforme a vraiment permis de maîtriser les effectifs?
Oui, je vous assure que d'abord, la bancarisation s'est faite de manière progressive. Donc, on n'a pas bancarisé tout le monde à la fois. On est allé progressivement. Et jusqu'aujourd'hui, on est au taux de bancarisation de 83%. Sur un effectif de 1 361 000 agents pour aujourd'hui, nous avons déjà bancarisé 1 129 630 agents et fonctionnaires d'État bancarisés. Et quels sont les résultats? Lorsque nous avons constaté qu'il y avait des gens qui ne venaient pas aux banques, aux guichets des banques pour avoir leur argent, nous avons procédé par les blocages. Et nous avons bloqué au-delà de 25 000 agents et fonctionnaires de l'État que nous avons bloqués. Et cet argent qui sortait tous les mois, qui disparaissait entre les mains des comptables et on ne sait pas par quelle destination cet argent prenait, l'argent a commencé à être reversé. À la date d'aujourd'hui, c'était les grandes utilisations qui ont été faites, nous avons atteint pratiquement le montant de 180 milliards de francs congolais. Des reliquats payés, l'argent de la paix qui sortait, mais cette fois-ci, grâce à la bancarisation, on a mis fin à cette sortie de l'argent injustifiée et on a bloqué les fictifs officiellement. Donc après, parce que nous avons organisé les ateliers d'évaluation, nous sommes arrivés à un chiffre au-delà de 22 000 agents bloqués. Ça, c'est de manière officielle. Et il y avait des blocages systématiques que l'on faisait chaque mois. Lorsqu'on constate qu'après une certaine période, un mois ou trois mois, l'agent ne se présente pas, on fait un atelier d'évaluation, on appelle le service qui a engagé la paye.
Alors vous
on
dites
nous
que
pose la question au service. Pourquoi est-ce que vous avez aligné ces personnes et ces personnes qui ne passent jamais réclamer leur argent? Dans la plupart des cas, il n'y avait pas de réponse. Voilà l'origine la première catégorie de fictifs que nous avons bloqués.
Alors vous dites que la bancarisation, monsieur KMB, vous dites que la bancarisation vous a permis de pouvoir maîtriser les effectifs. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce jour en RDC, l'administration publique n'a plus ou ne compte plus d'effectifs?
Bonne question, madame. Merci pour cette question. Alors, il y a plusieurs catégories de fictifs. La bancarisation a permis de bloquer les fictifs qui n'existaient pas, c'est-à-dire des personnes qui physiquement n'existaient pas. Parce que ces personnes-là, ce sont des noms qu'on a injectés dans les fichiers paye. Et qui injecte ces fichiers? Ce sont les gestionnaires en amont, pas les comités de suivi de la paye. Les comités de suivi de la paye ne gèrent pas les fichiers paye, n'est pas dans les circuits de la paye, ne gèrent pas les personnels. Donc, s'il y a des fictifs, ces fictifs sont injectés en amont par les gestionnaires. Alors, quand la première catégorie des fictifs, parce que les banques elles payaient, elles ont vu les noms sous les listings, mais des personnes qui ne se présentent pas. Voilà la première catégorie des fictifs que la bancarisation a permis d'assainir. Maintenant, la deuxième catégorie des fictifs qui existe jusque-là, ce sont des fictifs, des personnes qui existent, mais qui n'ont pas qualité de fonctionnaire ou agent public et qui touchent l'argent de l'État indûment. Donc là, c'est un fictif. Voilà les gens des fictifs, lorsqu'on parle des fictifs qui existent encore, ce ne sont pas des personnes physiques. Des personnes physiques qui n'existent pas, ce sont des personnes physiques. Parce que les personnes physiques qui n'existent pas, à la faveur de la bancarisation, on les a bloquées. Mais des personnes pour lesquelles les noms se trouvent sous les listings et physiquement qui se présentent dans les banques, des cousines, des cousins, des oncles qui n'ont pas qualité, qui n'ont aucun acte administratif ou qui ont des faux actes administratifs, qui se présentent au niveau des guichets des banques et qui touchent indûment l'argent de l'État. Donc je confirme que ces genres de fraudes existent encore. Et donc s'il s'agit de ces fictifs-là, ce sont des fictifs qui existent. Et donc pour ce faire, il faut qu'en amont, il y ait un contrôle sévère de chaque administration, contrôle physique.
Monsieur Kayembe, là, ce sont les solutions que vous proposez pour rendre la bancarisation efficace. Ça sera dans la deuxième partie de notre émission, mais dans ces résultats préliminaires des enquêtes de la police judiciaire, le comité de suivi de la bancarisation est quand même pointé du doigt et responsable défalquerait l'équivalent de 3,6 $ sous la paie de chaque fonctionnaire.
Oui, madame, par rapport à cette question, je crois que c'est un malentendu. Lorsque vous prenez les 3,6 $, c'est un montant qui existe bel et bien, mais je voudrais vous rassurer ici que si nous avions 3,6 $ par jour, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, même pas au pays, je serais ailleurs. D'ailleurs, nous sommes des professionnels, même si si j'en avais droit, je ne pouvais pas être là où je suis maintenant. Donc, on n'en a pas droit. Alors, il est question de 3,6 %. Alors, la précision que j'apporte, qui est détail, c'est que les 3,6 %, c'est en fait les montants qui est bel et bien, qui se retrouvent bien le bien dans les protocoles d'accord, c'est le montant des 3,6 % que le gouvernement s'engage s'est engagé, dans le cadre de ce protocole d'accord, à payer aux banques au titre des rétributions en contrepartie de ce travail, de la prestation des banques. Comme vous le savez, les banques, ce sont des entreprises privées et l'État leur a sollicité les banques dans le cadre de la paye et les banques ont posé le problème des rétributions et l'État s'est engagé lorsque vous payez le protocole d'accord. C'est l'article 2 et l'alinéa, le point 3 qui dit clairement ceci. L'État prend en charge le frais de tenue des comptes arrêté à l'équivalent franc-congolais de 3,6 % hors taxes par agent ou fonctionnaire payé de commun accord avec cette dernière. Donc, le 3,6 %, dollars, pas l'argent qui entre dans les poches des membres du comité, je donne ma tête à couper et ma main également, et je mets ma main sous le cœur, les 3,6 % de l'argent que l'État paye aux banques au titre de rétribution. On n'a jamais eu un seul dollar qui entre dans les comptes ou dans les postes des agents qui travaillent au comité de suivi de la paix.
Voilà. Merci, monsieur Jean-Louis Kayembe, professeur. Merci pour cet éclaircissement, monsieur Jean-Louis Kayembe, professeur Florimond Moteba, professeur d'université, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, en sigle. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation, professeur Moteba?
Merci beaucoup pour la question et surtout, je remercie M. Kayembe d'avoir éclairé encore davantage, notre lanterne sur cette question. Moi, je dirais que d'abord la réforme engagée sous le gouvernement Matata était une bonne chose. Mais non, c'est vrai qu'elle peine à produire des résultats. Pourquoi? D'abord, il y a la culture ambiante et généralisée de la fraude chez les Congolais. Et ça, c'est dans toutes les couches de la population. Parce que ce que M. Kayembe vient d'expliquer, le problème se trouve surtout au niveau de l'engagement. On essaie toute la chaîne de la défense. Hein. Donc, elle commence par l'engagement. Et cet engagement qui est fait par le ministère de la fonction publique à partir des informations qui lui sont fournies par les différentes administrations des ministères. Et c'est là où le bât blesse. C'est-à-dire qu'on puisse établir des fausses listes, et nous savons tous, hein, on entend, on voit des gens qui ne travaillent même pas dans la fonction publique, mais qui ont été inscrits sur des listes, que ce soit au ministère de l'économie, je cite comme ça, ou du commerce, ou ailleurs, où ils sont inscrits comme ça, d'une manière fantaisiste, sur des listes qui vont vers les ministres de la fonction publique, qui lui fait l'engagement global sans contrôler, qu'on puisse contrôler cette source d'information pour détecter là où il y a la fraude, là où il y a des faux agents de l'administration publique qui continuent à émerger comme des agents fictifs de l'État. Donc il y a cette culture ambiante qui n'est pas bonne, le manque de respect vraiment de la plupart des Congolais pour le patrimoine commun de nous tous. L'argent de l'État, c'est l'argent de tout le monde, et si on considère qu'on peut perdre comme ça 250 millions de dollars, alors que nous avons des problèmes au niveau de l'enseignement, de la santé, etc., mais quelques personnes se mettent dans une chaîne de fraude comme ça, généralisée, pour pouvoir avoir cet argent. Il y a le désir de l'enrichissement facile, le manque d'éthique et certaines pratiques qui, au plus haut sommet de l'État, au niveau des hauts fonctionnaires, etc., doivent être bannies et qui font que ce genre de situation continue donc à nous accompagner. Donc, voilà un peu les grands problèmes. Il y a aussi le fait que les différents contrôles aujourd'hui au niveau des finances publiques, les différents contrôles sont en panne. Avec tous les services qui pourraient, bien sûr, on vient récemment de réhabiliter un peu les contrôles administratifs par le biais de l'inspection générale de finances, c'est une bonne chose, mais longtemps, pendant longtemps, depuis 2011, là, comme on dit, ces contrôles-là administratifs, internes à l'administration, elle-même, et comme l'inspection générale de finances, étaient complètement morts. Mais aussi, les contrôles qui pouvaient être exercés au niveau du ministère de la fonction publique, sur qui touche réellement cet argent, les listes qu'on envoie à la fonction publique, qui sont sur ces listes. Ce contrôle a manqué pendant si longtemps. Pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi on ne pouvait pas initier des contrôles physiques? Carrément. Pourquoi on l'a pas fait? Et donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a un vrai problème de contrôle qui fait que on continue comme ça, bon gré mal gré, à payer donc des agents fictifs et à perdre l'argent donc de l'État. Et une autre question que moi je pourrais peut-être poser à M. Kayembe, c'est de m'assurer que les agents qui ont été bloqués dans les banques, est-ce que cet argent est rentré au niveau du Trésor? Ça c'est une question qu'on aimerait savoir, sur laquelle on aimerait avoir des réponses. Si c'est rentré, c'est une bonne chose, mais si ce n'est pas rentré, c'est passé où? Donc voilà un peu pour moi une série de remarques que je voulais donc signaler. Être sûr que les reliquats ont été reversés au Trésor, parce que vous savez, même les doublons, les agents qui vont s'inscrire à gauche, à droite, il est dans 3 ou 4 ministères. C'est dû à la mentalité, cette mentalité des pauvres qui accompagne les Congolais. Ils font du mal, mais eh bien c'est très bien pour eux. Hein, ils peuvent gagner 3 ou 4 salaires dans 3 ou 4 ministères avec la complicité de ceux qui les mettent sur les listes.
Est-ce que l'impunité ne les favorise pas, cette fraude, professeur Mouteba?
Oui, bien sûr. Mais pour punir, il faut faire des contrôles sérieux. Et ces contrôles, nous saluons ce qui est en train d'être fait par rapport à ces dossiers. Mais il faudra que les culpabilités soient établies. C'est toute une chaîne. Et qu'à partir de ce moment-là, que l'on puisse sanctionner sévèrement ceux qui sont en faute. Mais pour cela, il faut que les contrôles fonctionnent.
Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finances, comment vous jugez ces résultats préliminaires des enquêtes de la police judiciaire des parquets sur la paie des agents et fonctionnaires de l'État qui renseignent qu'il y a plus de 133 000 agents fictifs et environ 43 000 doublons qui bénéficient indûment de la paie des fonctionnaires officiellement reconnus?
Merci beaucoup de la parole. Je voudrais d'abord saluer les co-débatteurs ce soir. Je n'ai pas de sentiment particulier de point de vue quelconque à émettre sur le rapport, sur l'enquête qui est en cours. Néanmoins, je voudrais constater que la problématique de fictifs et des doublons est une question qui perdure, qui date déjà de longtemps. Et l'objectif qui a été fixé dans cette réforme de bancarisation, c'était justement de pouvoir assainir le fichier des agents et cadres d'État qui avant étaient payés manuellement, c'est-à-dire l'État devait débloquer de l'argent, mettre entre les mains des comptables publics qui devaient procéder au paiement, avec tous les risques que cela prend. Alors, sous la gestion de l'ancien premier ministre Matata Mponyo, cette réforme a commencé et c'était tout à fait une belle initiative et qui devait continuer à être encadrée. Alors moi, je pose la question, pourquoi cette problématique perdure? Il me semble que ce problème est entretenu. Parce que quand vous voyez les 4 étapes qui ont d'ailleurs été rappelées par le premier intervenant, les 4 étapes d'exécution des dépenses publiques, vous avez l'engagement, la liquidation, le redevancement et les paiements. L'engagement au niveau de la fonction publique. Alors, comment concevoir qu'une année à l'autre, le problème n'est pas résolu? Et pourquoi seulement en ce moment où il y a cette enquête, pas que
les différents responsables peuvent donner l'impression que, eh ben, c'est une question qui, visiblement, échappe à l'attention de tous. Moi, je pense que ce qui est plus intéressant ici, c'est plus les chiffres. Quand on nous parle de 259,3 millions de dollars, madame, moi, je me dis, c'est pratiquement le coût d'une centrale hydroélectrique qui produit 50 mégawatts. Alors, si pendant 9 ans, il y a eu ce détournement-là, et que différents responsables ne l'ont pas relevé, il a fallu qu'il y ait une enquête pendant que, en management, la gestion suppose aussi la fonction contrôle, qui est une fonction permanente. C'est-à-dire, au niveau du ministère concerné, il doit y avoir des équipes, et je suppose qu'il y en a, qui contrôlent régulièrement le travail, comment il est effectué. Alors, quand vous divisez ce montant par 9 ans, c'est ça fait pratiquement 28 millions de dollars qui sont détournés chaque année par le fait qu'il y a des compatriotes qui résistent, en fait, au processus de changement de la société. Alors, assez souvent, on parle aussi des problématiques de reliquats. Vous allez vous rappeler, quand on a mis en œuvre cette réforme, on se frottait les mains d'avoir réalisé des reliquats considérables, mais un des intervenants posait la question. Mais quel était le sort finalement de ces reliquats? Ces reliquats retournés au trésor public. Alors, ici, vous avez aussi un comité qui est en vedette, le comité de pilotage de la paye, qui est composé des délégués qui viennent des trois ministères. Vous avez le ministère du budget, le ministère des finances, le ministère de la fonction publique. Pouvez-vous me dire que, madame, les représentants de ces ministères, ce comité de pilotage, n'étaient pas au courant de cette situation, ou dans leur initiative, n'est-ce pas, dans leur gestion quotidienne, n'est-ce pas, ne pouvaient pas alerter la communauté ou proposer aux autorités compétentes des petites solutions pour nous éviter ça. Pendant qu'ils se posent ce problème, madame, il y a des militaires qui sont francs, qui ont besoin de cet argent. Il y a la population qui pleure, qui n'a pas d'eau, il y a la population qui n'a pas d'électricité. Moi, je crois qu'il y a là un problème sérieux d'hommes et de management public en RDC.
On vous garde encore dans cette émission, Fabrice Ngabo. Le temps pour nous de prendre ces auditeurs qui nous appellent. On va prendre pour vous Jean-Louis Kaimbe, cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo.
Christian Songo, depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. La bancarisation était une bonne chose. Malheureusement, cette dernière a facilité une fraude énorme et un détournement en outrance qui ont fait aujourd'hui les petits riches dans ces pays. Pour rendre la bancarisation efficace, il serait mieux que les agents et fonctionnaires de l'État soient payés dans des banques de l'État et non des banques privées où les opérations retour se font à chaque paye entre la banque et certaines autorités. Et aussi, c'est bien de présenter les rapports des enquêtes préliminaires, mais une suite favorable sera encore mieux.
Alors, que faire pour rendre la bancarisation efficace et transparente? Vous avez suivi la proposition de cet auditeur, Henri Kiasongo Mulenda, depuis Kisangani. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi, il y a la question du professeur Muteba et même de notre analyste Fabrice Ngabo sur les reliquats des payes. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que cet argent retourne au trésor public?
Oui, merci madame. J'apprécie les interventions du prof Muteba ainsi que de monsieur Fabrice qui ont complété en fait ce que j'ai eu à dire. Alors, la réponse que je voudrais apporter à la question posée par le professeur Muteba, c'est de confirmer que l'argent pour ceux des effectifs qui étaient ou des fictifs qui étaient bloqués, cet argent est retourné bel et bien dans les comptes du trésor public. Nous avons à cet effet, sur l'instruction de l'excellence monsieur le ministre des Finances de l'époque, et nous avons ouvert un compte qui était dédié à ces fonds-là, tous les fonds qui retournaient à la banque centrale en rapport avec la paye. Bon, pour des soi-disant, pour des fictifs, des gens qui ne s'étaient jamais présentés au guichet des banques. Et donc, j'avais d'ailleurs indiqué que nous avons même atteint un montant de 180 milliards. Et bien sûr, il y a eu quelques utilisations. Au nombre des utilisations, on a pris cet argent, on a payé des allocations, par exemple, des fins de carrière des policiers ainsi que de l'armée. Donc l'argent est bel et bien rentré dans le compte général du Trésor. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons un montant, ces comptes affichent un solde de près de 101 milliards. Donc il y a encore de l'argent dans ces comptes-là de reliquats payés.
Comment rendre la bancarisation transparente et efficace?
Oui, il y a des intervenants qui ont essayé vraiment de cerner les problèmes, parce que les problèmes, comme on a eu à le dire, se trouvent localisés au niveau en amont d'abord. Tant qu'il n'y a pas un contrôle au niveau de l'administration, la fonction publique, l'administration publique, il y a un contrôle pour savoir qui est fonctionnaire, qui ne l'est pas. Et donc,
conformément à un organigramme qui avait, qui devrait au préalable être arrêté, tant que y a pas, les choses ne sont pas claires à ce niveau-là, là, les fictifs vont continuer à exister. Et si j'appuie aussi l'idée de l'impunité, madame, parce que c'est l'impunité qui favorise la fraude. Je vous donne des exemples que nous avons vécus. Des administrations qui sont venues lorsque nous avions constaté qu'il y avait des gens qui étaient fictifs, qui ne s'étaient jamais présentés aux banques pour avoir leur argent. On a appelé ces administrations pour leur dire, mais comment se fait-il que sur vos listings, on retrouve des gens, des noms, et des noms qui, pour des personnes qu'on ne voit pas, qui ne se présentent jamais pour chercher leur salaire. Mais avant la bancarisation, ces montants ici, cet argent partait où? Et comment ces personnes se sont retrouvées sur les listes de vos administrations respectives? Et pour la plupart des cas, il n'y avait pas de réponse. Et on passait carrément à l'assainissement et à élaguer le procédé à assainir les fichiers. Et sans que les auteurs, les gens qui ont entretenu ce système depuis plusieurs années, ne soient inquiétés. On a également du côté des banques. Parce que la fraude, c'est en amont. Et il y a une autre fraude au niveau, en amont, parce que c'est là qu'il faut vraiment insister pour qu'il y ait un recensement biométrique, un contrôle systématique. Je prends le cas, je vous donne le cas de l'inspection générale de la santé. On a bancarisé. La bancarisation, comme je l'ai dit, je vous l'ai dit il y a tout à l'heure, c'est que on a pris des fichiers tels que les services nous ont communiqué à la direction de la paye, à l'engagement, et donc on a confié aux banques. Les banques ont procédé au paiement, en vérifiant les identités. Mais quand l'inspection générale de la santé est allée pour les cas, par exemple, de l'Équateur, l'ancienne province d'Équateur, l'inspection générale est allée sur le terrain, procéder au contrôle sur pied, sur place, sur poste, voir les titres académiques, les lieux de travail, le nombre de lits, de médecins pour chaque centre, pour chaque hôpital. Mais c'est un scandale. Les rapports sont là.
Merci.
Et maintenant, on a trouvé qu'il y a des fictifs, donc la bancarisation nous a permis, comme je le disais, d'éliminer une catégorie de fictifs, c'est-à-dire les fictifs physiques qui n'existent pas. Mais les fictifs qui existent, mais qui ont une fausse identité, qui ont une multiplicité d'identités, qualités, qui ont procédé par l'usurpation d'identité, qui ont des faux documents.
Merci, monsieur.
Mais au niveau des banques, on ne peut pas détecter ça. Il faut donc, au niveau des banques, et les problèmes d'identité, madame, c'est très important. Nous avons connu, dans le cas de la bancarisation, un monsieur qui se présente avec 10 cartes d'électeurs ou 20, 50 cartes d'électeurs. Donc, il y a également un période de nécessité qu'on ait une pièce d'identité qui ne soit pas falsifiable, en tout cas.
Merci, monsieur KMB, professeur Mouteba. On va prendre aussi cette question pour vous qui nous vient de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.
Je suis en Kinga depuis la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Le détournement de ce montant est le fruit d'une complicité des banques qui ont opéré depuis l'effectivité de la bancarisation jusqu'aujourd'hui. Au-delà de ces 50 personnalités qui se partageaient leur destin, les banques sont aussi responsables de ces fameux détournements et doivent être traitées mutatis mutandis avec ces personnalités, car aucune révélation n'a été sortie de leur part et pourtant, ils disposent toutes les preuves à travers les bordereaux des transactions opérées depuis l'effectivité de la bancarisation. En revanche, l'État congolais doit tout faire pour que la paix de son personnel se fasse uniquement par la BCC, car les banques commerciales visent uniquement leurs intérêts. Le bien-être des travailleurs n'est pas à leur responsabilité.
Professeur Mouteba, cet auditeur propose que la paix des fonctionnaires et agents de l'État se fasse à la Banque centrale du Congo.
Oui, je suis tenté d'être d'accord avec lui parce que la BCC a des agences presque partout. Je crois que c'est la banque qui a le plus d'agences dans tout le pays. Et donc, oui, on peut le faire par le biais des agences local de la BCC et au niveau central également. Je pense que c'est une proposition qu'on peut étudier et qu'on peut soutenir. Parce que les banques commerciales ont démontré effectivement une certaine complicité. Pas une certaine, une complicité avec ce détournement des fonds opérés par des agents fictifs qui vont retirer allègrement les salaires et qui font rétrocède à ceux qui les ont favorisés. Donc, je pense que c'est une bonne chose, mais je pourrais insister aussi sur le fait que, puisqu'on est déjà aussi dans le chapitre de comment faire pour que la bancarisation soit efficace et transparente, je pense qu'il faut sommer, ça c'est au niveau du chef de l'État et au niveau du Premier ministre, il faut sommer le ministre de la fonction publique et publier dans un délai qu'on va lui donner, la liste des agents qu'il reconnaît comme étant les agents de l'administration publique. Ça exige que ce travail en amont soit fait et que des responsabilités soient établies. Je ne pense pas qu'un contrôle comme celui-là va nous coûter plus que ce que nous avons perdu. Ça ne va pas nous coûter 250 millions de dollars, un tel contrôle. Et donc, il faut le faire et sommer les ministres de la fonction publique de nous dire dans un délai court, parce que la loi des finances 2021 va aller bientôt à l'Assemblée nationale. Et on va revoter des crédits, notamment en ce qui concerne donc les paiements de ces agents, etc. Va-t-on recommencer ce qu'on a fait depuis 2011? Donc il est grand temps là, parce que nous avons, le Congo a besoin de toutes ces recettes aujourd'hui. Il y a la question de la pandémie qui nous a frappés, comme un peu partout ailleurs. Vous avez vu que dans les propositions même du budget préfiguré, que le budget de l'État ne dépassait pas 6 milliards. Donc on sait, dans les 5,7 millions, quelque chose comme ça. Alors que l'année dernière, les propositions faites pour 2020 étaient dans 11 millions. Vous voyez un peu, 11 milliards, on est à 6 milliards au moins. Et je peux aujourd'hui, même dans la mobilisation des recettes, je ne suis pas sûr qu'on va atteindre à la fin de cette année 2020 3 milliards de recettes mobilisées. Donc ça veut dire que même les 5 milliards qu'on prévoit pour l'année prochaine, 5 milliards 700 millions, je ne suis pas sûr qu'on va les avoir, parce que l'année ici a été une année très difficile pour les opérateurs économiques et que les paiements des impôts dus en fonctionnement et en activité 2020 vont être encore plus en baisse que cette année. Et donc, il y a une vraie difficulté, nous aurons des vrais problèmes. Il faut, on ne peut pas se permettre de perdre encore 20 ou 30 millions. Les ministres de la fonction publique doivent nous dire, dans les 2 mois peut-être là, quels sont les agents, les vrais agents de la fonction publique, quitte à faire l'enquête dans tous les ministères, dans toutes les provinces, qu'on sache exactement qui sont les véritables agents, qui les reconnaît. Et sauf que ceux qui vont faire les contrôles pourraient vérifier si sa liste-là elle est fiable. Les contrôles peuvent, même les contrôles citoyens peuvent se faire.
Fabrice Ngabo, il y a Mboloko Edmond depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur qui propose ceci: pour rendre le système efficace, il faut un contrôle physique de tous les agents de l'État et constituer un nouveau fichier afin d'élaguer l'effectif. Il convient de souligner que l'État doit créer un bureau de paie dans chaque province pour le suivi des personnes qui sont réellement agents de l'État. C'est sa proposition à lui pour rendre la bancarisation transparente. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous proposez?
Merci beaucoup, madame. Je pense que la proposition tient, elle tient la route. Il faut effectivement des contrôles beaucoup plus sérieux pour permettre d'améliorer ce processus de bancarisation. Néanmoins, je ne pense pas que le problème se situerait en aval, c'est-à-dire au niveau des banques. Même quand le leader parle de la création des bureaux au niveau local, le problème n'est pas toujours là, parce que les banques n'interviennent que pour exécuter les paiements qui ont été prévus déjà au niveau stratégique. Et donc, le problème c'est plus en amont, au niveau stratégique, au niveau de la première phase d'engagement, au niveau notamment du ministère de la fonction publique. C'est là qu'il y a le plus gros souci. Parce qu'il faut qu'on fasse, les fichiers qui sont communiqués aux banques pour paiement contiennent quelles données? Voyez-vous? Et ça, ce n'est pas un problème à résoudre au niveau des banques, c'est plutôt au niveau du gouvernement. Mais également, Je crois qu'il y a une responsabilité importante du comité de pilotage, n'est-ce pas, qui travaille en symbiose avec le gouvernement. Donc, je crois que le gros souci est à ce niveau-là. Mais en termes de proposition, parce que c'est la préoccupation,
ça sera aussi bonne conclusion.
Un engagement citoyen de la part de tous les compatriotes, notamment des responsables de l'administration, parce que dans la raquette préliminaire, on parle de 50 personnes, n'est-ce pas, qui percevraient cet argent. Donc il faut d'abord que chacun à son niveau se sente impliqué, interpellé, pour avoir cette capacité, ce courage de dénoncer. Ça, c'est un mal, il faut dénoncer. Deuxièmement, il faut une rigueur dans la gestion des finances publiques, comme on dit. Il faut que, et au gouvernement, et au niveau de l'administration, les gens aient la culture des résultats. Et qu'ils sachent que même les salaires qu'ils perçoivent, c'est un compte parce que des services donnés, des travail qu'ils ont rendu à la nation. Et donc, il faut que la rigueur caractérise la gestion de l'État. Pourquoi nous n'avons jamais entendu parler de cette expression fictive, doublon, dans le secteur privé? Ça n'existe pas. Les entreprises sont aussi des entités. C'est des entités qui gèrent avec rationalité les ressources. Pendant qu'on parle des chiffres de 259
millions... Il faut conclure, Fabrice Ngabo.
Oui, pendant qu'on parle de ces chiffres-là, l'un des intervenants a évoqué le resserrement de la trésorerie publique, voyez-vous. Et donc, en fait, pour terminer, je crois qu'il faut, en fin de compte, des mesures répressives contre ces détournements par la justice. Le rôle de la justice, rechercher les infractions. Tous ceux qui ont concouru à cette sorte de mafia doivent être démantelés, que leur responsabilité soit établie par...
Merci Fabrice Ngabo. Jean-Louis Kayembe, votre conclusion en 30 secondes.
Oui, merci madame. Je crois que ceux qui m'ont précédé ont dit véritablement ce qu'il faut faire. Il faut vraiment de la rigueur dans la gestion. Et il faut des sanctions et des mesures répressives. Parce que sans cela, on ne peut pas arriver à des résultats. Et ce qu'il faut très rapidement, c'est en fait en amont, il faut très rapidement un recensement sérieux. Parce qu'il y a plusieurs recensements, on mettait l'accent ici sur la culture de la fraude, c'est vraiment important. Il y a plusieurs recensements qui ont été faits au niveau de l'administration, par la coopération française, la coopération sud-africaine. Ça n'avait pas marché parce que c'est un réseau qu'il faut démanteler. Et donc, il faut vraiment une implication au plus haut niveau pour qu'on mette de l'ordre dans la fonction publique, les listes soient pour des gens qui ont qualité.
Merci.
Et c'est en amont cela est fait. Je crois qu'au niveau des banques, en aval, le paiement, les choses pourront aller très, très, très facilement.
Merci Jean-Louis Kayembe, professeur Mouteba. En 30 secondes aussi, votre conclusion.
D'abord, je pense qu'il faut un sursaut des sentiments patriotiques chez tous les Congolais. Parce qu'il y a un problème d'homme, évidemment, là. Et donc, il faut vraiment ce sursaut-là. Éviter aussi, parfois au plus haut sommet de l'État, de tenir des propos comme sur, par exemple, les rétro-commissions, comme justifie, etc. Mais ça, c'est un mauvais exemple qu'on donne à la population et qui accentue cette culture ambiante et généralisée de la France.
Merci, professeur.
Il faut punir, démanteler ce réseau de mafieux et sanctionner.
Merci, professeur Mouteba. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine, Guy Maté, Dona Madimba, sous la supervision d'Axel Goncho. Merci à Patrick Kiasongwa qui est à la prise de son. Présentation et coordination, Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.